Lysandre est un général et un homme d'État renommé de Sparte, une ville-État de l'Antiquité, célèbre pour ses guerriers redoutables. La maxime favorite de Lysandre est alors « Il faut coudre la peau du renard à celle d'un lion ». En d'autres mots, on doit faire la guerre en obéissant à deux principes, la force et la ruse. C'est cet état d'esprit qui lui permet de vaincre Athènes, la grande ville rivale. En tant qu'homme, Lysandre est un monstre qui mord sur le champ de bataille. Quant à la ville de Sparte, elle est finalement vaincue, perd son indépendance et atterrit dans le giron de Rome. Les monstres font beaucoup de mal, mais tôt ou tard, Dieu les fait périr. Je continue maintenant de lire dans le chapitre 7 de Daniel, chapitre dans lequel il reçoit des explications concernant la quatrième bête, une bête monstrueuse qu'il a vue dans sa vision. Alors, je voulais être fixé avec certitude au sujet de la quatrième bête qui était si différente de toutes les autres. Cette bête très effrayante, qui avait les dents de fer et des griffes d'airain, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes, je voulus aussi savoir ce que représentaient les 10 cornes qu'elle avait sur la tête et l'autre corne qui avait poussé et devant lesquelles 3 des premières cornes étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. Ce texte de Daniel n'est pas une reprise de la vision, comme si elle recommençait sous les yeux du prophète. C'est Daniel qui expose et répète à l'ange tout ce qu'il vient de voir en mentionnant au passage de nouveaux détails. C'est ainsi que nous apprenons que la quatrième bête a des griffes, des reins, et que la petite corne qui a poussé à la place des 3 autres cornes paraît dorénavant plus grande que les autres. Cette bête est très différente des 3 précédentes parce que le peuple sous sa domination sont plus diversifiés et plus nombreux que sous les autres empires. Au summum de sa gloire, l'Empire romain historique englobe totalement le bassin méditerranéen, la mer Noire, et s'étend jusqu'au bord de la mer Caspienne. Les nations, sous sa botte, haïssent les Césars parce qu'ils leur font sentir leurs dents de fer, leurs griffes d'airain, et ils les piétinent, ce qu'on appelle les guerres puniques, pour le contrôle de la partie ouest de la Méditerranée, illustrant bien la cruauté des Romains dans leurs 3 campagnes contre Carthage, une ville-État dans le golfe de Tunis fondée par les Phéniciens. Malgré le célèbre exploit d'Hannibal et ses éléphants, Carthage est totalement rasée et piétinée et ses habitants sont massacrés ou vendus comme esclaves. L'Empire romain est impitoyable dans ses conquêtes et les nations européennes auxquelles il a donné naissance sont comme la quatrième bête, leur ancêtre. Ils aiment se faire la guerre. On peut caractériser le XXe siècle de diverses manières, mais ce qui est sûr est que les Européens se sont entretués sans retenue. Mis à part les villes nouvelles, dans tous les villages de France, même les plus petites, on trouve un monument aux morts des 2 dernières guerres mondiales sur les places du village et un autre dans le cimetière, plus une plaque dans l'église avec les noms de ceux qui sont morts pour la patrie. Et c'est à peu près pareil dans les pays voisins. Nous sommes foncièrement méchants et cruels. Dans les statistiques historiques que nous possédons à la louche, l'humanité s'est livrée à 15 000 guerres et a signé 8 000 traités de paix. Mais qui, sinon Dieu, connaît les chiffres exacts? Avec un tel pédigré, l'homme n'a guère de raison d'être fier de lui. Il n'est donc pas étonnant que l'une des principales caractéristiques du millénium sera la paix. Parlant du Messie, le prophète Ésaïe écrit « Il sera l'arbitre des peuples, oui, il sera le juge de nombreuses nations. Martelant leur épée, ils forgeront des socles pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. » plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation et l'on n'apprendra plus la guerre. Mais en attendant ce jour, les hommes continueront à se faire la guerre. L'Empire romain historique a rejeté le Fils de Dieu, le sauveur par l'intermédiaire du gouverneur Ponce Pilate. C'est lui qui, d'un ton moqueur, a dit à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ? Rome a crucifié le Christ et persécuté les chrétiens. Mais au fil des siècles, l'Empire, représenté par les jambes, la statue de Nabucodonosor, s'affaiblit et se scinde en deux. La partie est, l'Empire byzantin à Constantinople, pour capitale, et continue d'exister pendant 1000 ans, et tandis que la partie ouest se disloque. Mais l'Empire romain n'a jamais entièrement disparu, et son esprit est bien vivant et prêt à reprendre corps. À la fin des temps, et sous sa deuxième phase, il reprendra du poil de la bête sous la forme de 10 cornes, c'est-à-dire une confédération de nations qui constituera un ensemble cohérent, tout comme la communauté européenne. Mais je ne dis pas qu'il s'agit de cette communauté-là. Ce n'est qu'un exemple, car je ne suis pas prophète et ma boule de cristal est en panne. Dans sa troisième phase, l'Empire romain apparaîtra sous la forme d'une petite corne qui sera d'abord insignifiante, mais elle connaîtra une montée en force extraordinaire, jusqu'à devenir plus puissante que tous les autres États de sa confédération. Cette corne est l'Antichrist que l'apôtre Paul appelle l'homme du péché ou de la révolte. Il viendra au pouvoir déguisé en parfait humaniste. Il promettra la lune, la paix universelle et la prospérité de tous. Il sera religieux et encouragera l'ouverture d'esprit la plus large possible dans tous les domaines, sauf envers les vrais croyants, bien sûr, car il a la haine au ventre contre le Dieu unique et vrai, et contre Jésus et ceux qui lui sont fidèles. Je continue le texte. Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint, elle remportait la victoire sur eux. Daniel raconte à l'ange ce qu'il a vu et qui l'a particulièrement choqué, car il ne comprend pas pourquoi Dieu permet une telle injustice. Jusqu'ici, nous possédons déjà un certain nombre de renseignements concernant la petite corne. On sait qu'il s'agit de l'Antichrist, qu'il est intelligent et arrogant, qu'il apparaît après les 10 rois, qu'il leur est contemporain et qu'il prend la place de 3 d'entre eux. Maintenant, on apprend que cette petite corne persécute les croyants, c'est-à-dire Israël fidèle ainsi que les païens prosélytes, et qu'il les a vaincus. Dans l'Apocalypse, Jean écrit « Il lui fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. » Cette persécution a lieu pendant la période de l'histoire appelée la Grande Tribulation. Mais l'Église de Jésus-Christ n'est plus de ce monde parce qu'elle a été enlevée dans les cieux, où elle célèbre les noces de l'agneau. Enfin, cette petite corne, aussi appelée la bête, sera détruite par Dieu. Et les croyants qui ont échappé à ses griffes entreront dans le millénium qui est le royaume de Dieu sur terre. Je continue le texte. Cette corne faisant la guerre aux membres du peuple saint, elle remportera la victoire sur eux, jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours, et que le jugement soit donné aux membres du peuple saint du Très-Haut, et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession du royaume. Nous assistons à la session du tribunal céleste. Daniel a déjà dit qu'il avait vu qu'on avait installé des trônes, que l'ancien des jours avait pris place à l'un d'eux, mais il ne nous a pas dit qu'il occupait les autres trônes. Maintenant, il nous donne l'information. Ce sont les membres du peuple saint, c'est-à-dire les croyants qui ont été tués par l'Antichrist et qui sont maintenant dans les cieux. Le Christ et les apôtres ont enseigné que les saints jugeront le monde et même les anges déchus, c'est-à-dire les démons. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même, qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Cependant, comme dans les Écritures, les jugements sont rendus au nom de Jésus-Christ, c'est toujours lui qui est désigné comme le juge suprême. Dans l'Évangile selon Jean et dans le livre des Actes, on lit « Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il, Dieu, lui a donné autorité pour exercer le jugement. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier et toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Une fois le jugement rendu, l'Éternel donne le royaume messianique à son Fils pour qu'il règne sur terre pendant 1000 ans, puis dans les cieux pour l'éternité. Les croyants qui ont été mis à mort par l'Antichrist reviendront à la vie et entreront dans le millénium en compagnie de ceux qui ont échappé à la persécution. Et à la fin des 1000 ans, ils le suivront le Christ dans les cieux, où ils rejoindront les croyants de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire les membres de l'Église du Christ qui célèbrent les noces de l'agneau depuis déjà un peu plus de 1000 ans. Depuis, ils ont été enlevés de ce monde jusqu'avant le début des 7 années de tribulation. C'est un peu compliqué, j'en conviens. Je continue le texte de Daniel. Celui que j'avais interrogé me dit, « La quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquettera. » Retour abrupt sur terre avec l'ange qui répond aux questions de Daniel sur la quatrième bête. L'Empire romain historique a conquis plus de territoires que ses prédécesseurs, mais pas le monde entier. La petite corne, par contre, dévorera toute la terre et cette conquête sera particulièrement féroce. Après sa victoire, l'Antichrist impose une dictature mondiale. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean écrit que la bête, c'est-à-dire la petite corne, reçoit autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Je suppose qu'en comparant ce que je raconte avec l'état actuel des pays de notre planète, vous vous dites « c'est impossible ». Je comprends, mais moi je dirais plutôt « je n'ai pas la moindre idée comment cela va se passer, mais je sais que d'une manière ou d'une autre, ce que Dieu dit s'accomplira ». Je continue le texte. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux. Il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois. La 4e bête de la vision de Daniel, qui correspond aux jambes de fer de la statue de Nabucodonosor, est donc bien l'Empire romain historique qui s'est effondré sous son propre poids de corruption et de division interne. Au 5e siècle de notre ère, des ordres barbares venirent du nord lui assénèrent des coups de boutoir qui mettent fin à son hégémonie politique et militaire, mais non pas à son existence. En effet, ces pillards ne sont pas unifiés et n'ont pas constitué un nouvel empire avec les morceaux de la 4e bête. La partie ouest de l'Empire romain se décompose en 10 états plus ou moins indépendants qui, au fil du temps et des guerres, elles perdent ou gagnent des territoires et des peuples, refondent leurs frontières et prennent d'autres noms, donc certains existent aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, un jour, dans l'avenir, 10 rois ou plus apparaîtront et constitueront une fédération qui est la 2e phase de l'Empire romain, un développement qui n'est pas dans les livres d'histoire parce que c'est une prophétie. Ce règne de 10 rois durera un certain temps qui ne nous est pas donné. Puis vient sur le devant de la scène un autre roi que les Écritures appellent la petite corne, l'Antichrist, qui crée la troisième phase de l'Empire romain. Ce despote monte rapidement en puissance et absorbe trois rois ou nations. Hitler aussi avait commencé ses conquêtes de cette manière. Il a d'abord annexé l'Autriche, puis il a envahi la Pologne, qui l'a écrasée. Je continue le texte. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint, se proposera de changer les temps et la loi. Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, le peuple saint sera livré à sa merci. L'Antichrist s'occupe de l'autorité de l'Éternel en parlant contre lui. Littéralement, il est dit qu'il se mettra à côté du Très-Haut, ce qui veut dire qu'il se prétendra égal à Dieu. C'est à ce discours pompeux et arrogant de l'Antichrist que dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul fait allusion quand il écrit « L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. » Se prétendant Dieu, cet être impie empiètre sur les attributs divins en voulant changer certaines ordonnances de la loi de Moïse, comme le calendrier des fêtes. Plus loin, on apprend qu'il feint tout d'abord être un ami des Israélites avant de se retourner brusquement contre eux. Puis il met le comble à son arrogance en établissant la capitale de son empire à Jérusalem. Pendant 3 ans et demi, c'est ce que l'expression « un temps des temps et la moitié d'un temps » signifie. Pendant cette période de 42 mois ou 1260 jours, des chiffres qu'on trouve également dans le livre de l'Apocalypse, le peuple saint sera livré à la merci de l'Antichrist qui persécutera les croyants. La durée de la suprématie de cet être infâme a été mesurée et partagée à l'avance par Dieu lui-même. Ces trois périodes inégales correspondent chacune à une phase de la puissance de l'Antichrist. Durant la première, il établit son pouvoir. Durant la seconde, il se renforce doublement et pendant la troisième phase, au lieu d'atteindre son apogée, l'Antichrist tombe subitement de son piédestal, détruit par le Seigneur de gloire. Je continue le texte. Mais alors viendra le jugement. Et on ôtera la domination à ce roi pour l'exterminer et le faire périr définitivement. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. L'ange qui explique l'avenir à Daniel fait une déclaration surprenante au sujet du peuple saint. Quand il lui dit que le peuple saint jouira de la souveraineté et du règne éternel, des caractéristiques qui appartiennent à Dieu le Père et Dieu le Fils. En effet, Daniel a déjà dit « Je louerai celui qui vit éternellement et je proclamerai sa gloire, sa souveraineté est éternelle et son règne dure d'âge en âge. » On lui donna au Fils d'homme la souveraineté et la gloire de la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. De même que Dieu règne par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Le Fils de l'homme, ce dernier règne en personne, avec les membres du peuple des saints. De toute éternité, la volonté de Dieu est de partager sa gloire et son règne avec un peuple qui sache apprécier son Créateur à sa juste valeur, qui reconnaît sa grandeur infinie, sa bonté et son amour, et qui exprime sa gratitude et son adoration. Dans la vision de Daniel, nous sommes toujours à la fin de la grande tribulation et un tribunal composé de l'Ancien des Jours, de Dieu, le Fils, ainsi que des croyants qui sont déjà dans les cieux et rassemblés et prononcent le châtiment de l'Antichrist. Les anges ne sont pas mentionnés parce qu'on ne leur demande pas leur avis. En effet, leur rôle se borne à servir et adorer Dieu. Et les événements sur terre ne les concernent pas directement. Le tribunal décide que la petite corne, que dans l'Apocalypse, Jean appelle la bête, et qui est l'Antichrist, doit être mise à mort. Sa domination est terminée, et lui-même est jeté dans l'étang de feu. En même temps que ce jugement est prononcé, Jésus-Christ revient sur terre et établit son royaume avec les siens, les membres de son Église, ainsi que le peuple saint du Très-Haut, c'est-à-dire les croyants de l'Ancien Testament. Le Messie régnera avec un sceptre de fer sur toutes les nations de la terre pendant 1000 ans. Il perdurera, car rien ni personne ne pourra renverser. Ensuite, ce royaume continue dans les cieux pour toute l'éternité, en compagnie de tous les rachetés de tous les temps. Les théologiens d'obédience libérale, ainsi qu'un certain nombre de vrais croyants, pensent que le millénium ne correspond pas à 1000 années, mais que c'est seulement une façon de parler de l'éternité. Cependant, dans le sillage des apôtres, les pères de l'Église des premiers siècles adoptent une interprétation littérale des textes sacrés. Après le martyr de Saint Pétain, exécuté par Rome en l'an 177 de notre ère, Irénée, un père de l'Église, lui succède à la tête du diocèse de Lyon. Il écrit « Alors, cet Antichrist aura dévasté toutes choses en ce monde, et il régnera pendant 3 ans et 6 mois, et il s'assoira dans le temple de Jérusalem, et alors le Seigneur viendra des cieux sur les nuages dans la gloire du Père. Il enverra cet homme et ceux qui le suivent dans l'étang de feu. Mais il instaurera pour les justes le royaume, c'est-à-dire le repos, la sanctification du 7e jour, et il restaurera Abraham, l'héritage promis dans ce royaume, au sujet duquel Jésus a dit « Je vous le déclare ». Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Il ne fait donc aucun doute qu'Irénée croit que le Christ établira un royaume de 1000 ans sur la terre. Jusqu'au concile de Nicée, en 325 de notre ère, la position de l'Église dans le domaine eschatologique est la ferme conviction que Jésus reviendra triomphant et dans la gloire en compagnie des croyants ressuscités pour régner pendant 1000 ans sur cette terre. Après quoi aura lieu la résurrection des non-croyants et le jugement du grand trône blanc. Je finis de lire le chapitre 7 de Daniel. Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées et j'en devins blême. Je gardais ces choses en mémoire. Daniel n'a mentionné le contenu de la vision que lorsqu'il a rédigé son livre. Quand il les reçoit, il reste bouche bée et bouche cousue tellement il est stupéfait par ces révélations fantastiques. Et aujourd'hui, c'est pareil. On ne peut les accepter que par la foi, car elles ne sont sur aucun radar, ni des scientifiques, ni d'un commun des mortels.